Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle fenêtre.
Bienvenue à toutes et tous sur Bâti Radio, suite de cette première journée du salon Équipe B Metal Expo. Nous sommes toujours dans les allées portes de Versailles, hall 1. Voilà, les interviews s'enchaînent sur notre plateau de Bâti Radio. Une table ronde, à présent, elle va durer de l'ordre de 45 minutes, 50 minutes sur table ronde, avec un titre, Avec l'aluminium, votre avenir se profile bien. Voilà le titre de cette table ronde du SNFA. Autour de la table, donc toute une équipe, nous sommes très fiers, très honorés de les avoir autour de la table. Bruno Léger, vous étiez avec nous à 14h dans la table ronde des présidents. Vous êtes à nouveau avec nous, vous êtes le président du SNFA. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Rebonjour. Toujours aussi bien, en pleine forme, toujours prêt pour cette table ronde.
Là, il y a beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup de choses à dire. On va aller au fond des choses aujourd'hui. Juste en face de vous, Sandra Bertin, déléguée générale du SNFA. Bonjour Sandra.
Bonjour, bonjour à tous.
Même question, vous allez bien, en forme?
Ah, super forme.
Ça fait du bien de revoir un peu tout le monde dans les allées du salon, le sourire.
De la bonne humeur, de l'envie d'être ensemble.
Bon, ben, ça fait plaisir aussi à voir. Et puis Nicolas Lopin, le délégué technique du SNFA, est avec nous pour compléter ce casting aujourd'hui. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous allez bien? Même question?
Pareil, tout va bien.
Eh bien écoutez, en pleine forme. Peut-être en quelques mots, rappeler pour faire les présentations, poser un petit peu le contexte, votre rôle à tous les deux sur le SNFA, pardon.
Moi, je gère une équipe au service des adhérents. Donc, on travaille le maximum de sujets transversaux avec toutes les professions que nous représentons. Je vais rappeler plus tard les métiers qui sont représentés au SNFA. Mais en tous les cas, c'est la mission principale. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux qui nous attendent, qui d'ailleurs vont démarrer au 1er janvier 2022. Donc je pense qu'on va en parler tout de suite ensemble.
Bien sûr.
Voilà, et donc il y a énormément d'accompagnement à construire pour que l'ensemble de la profession puisse être prête pour répondre aux attentes qui sont, déjà formulées, déjà connues.
Beaucoup d'attentes, beaucoup d'enjeux. Nicolas, vous êtes d'accord? Vous confirmez?
Ah, complètement. Moi, je m'occupe de tous les sujets techniques du SNFA, donc tous les différents produits autour de la menuiserie aluminium, de la fenêtre, de la façade, de la véranda, du garde-corps. Et donc, on essaye d'écrire des référentiels techniques pour la profession et également des démarches qualité.
Bon, on va revenir sur tous ces sujets, évidemment, au cours de cette table ronde sur Bâti Radio. Peut-être un mot, Bruno Léger. Comment le SNFA a traversé la crise que l'on a connue, l'année et demie qu'on vient de connaître avec la pandémie mondiale? Comment s'est passée la reprise d'activité aussi? Et puis comment le SNFA a agi pendant cette période?
Alors, un mot, je vais aller assez vite sur comment s'est passée l'activité. En fait, tout s'est arrêté. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous parler du SNFA dans cette affaire. Mais tout s'est arrêté et puis ça a repris progressivement et puis ça a repris de plus en plus fort. Et la fin d'année a été très, très forte et ça continue sur cette tendance très, très forte aujourd'hui. Ça, c'est pour l'activité. Après, on a vécu une année 2020 traumatisante, on va dire, en mars, mais après extrêmement enrichissante à vivre parce qu'elle a été l'objet, elle a fait l'objet d'un véritable sursaut collectif de notre profession. Alors je précise qu'il y avait le SNFA bien sûr, mais notre collègue syndicat de la menuiserie qui s'appelle l'UFME, on était extrêmement liés, les deux bureaux, et nous avons organisé ensemble le redémarrage de la profession. Donc ça a été un sursaut collectif puisqu'au lieu que chacun redémarre dans son coin, ce qui est impossible, parce que tout seul, on a besoin des fournisseurs, on a besoin de ses clients, et tout ça, c'est une grande chaîne et une grande profession. Et c'est parce qu'on a été ensemble qu'on a pu faire redémarrer tout le monde. Nos fournisseurs, les fournisseurs de nos fournisseurs, nos clients, partout.
Toute la
chaîne a redémarré ensemble. Donc ça, c'était fabuleux à vivre, fabuleux à organiser. C'était un très, très grand moment. Après, on a bien vu que nos adhérents avaient beaucoup besoin d'être assurés. Donc le rôle d'un syndicat dans ces cas-là, c'est d'être présent. La visio a rendu les choses possibles parce qu'évidemment chacun était chez soi. On n'a jamais eu autant de participants à nos réunions. Et section par section, puisque le SNFA est organisé par section, les façades, les fenêtres, les garde-corps, les cloisons, les vérandas, on n'a jamais eu autant de participants dans les réunions de section parce que les gens étaient véritablement inquiets, préoccupés et ils voulaient être rassurés sur tout un certain nombre de choses. On a beaucoup travaillé, par exemple, pour leur fournir des masques. Dans notre profession, nous avons commandé 1 million de masques en Chine. Et ça paraît idiot, mais à l'époque, c'était la chose la plus vitale qui soit. Sinon, on ne redémarrait pas nos usines. On a aussi beaucoup travaillé avec la FFB sur le protocole de l'OPP-BTP. Et sans ça, on avait du mal à intervenir chez le particulier pour changer les fenêtres. Donc on a mis en place, on a travaillé, et une fois qu'on a eu ce protocole, on en a fait la diffusion pour que les installateurs puissent de nouveau intervenir chez le particulier et poser des fenêtres chez le particulier. Bah, tout ça, ça a été un très gros travail tout au long de l'année 2020.
Donc finalement, assez gratifiant comme travail, assez motivant aussi.
Oui, avec le recul, c'était une période qui était intéressante à vivre, très intéressante. Et très gratifiante. Le mot est très bien choisi. Très gratifiante.
C'est humainement très riche pour une organisation professionnelle qui finalement devait travailler à distance. L'ADN des organisations professionnelles et du SNFA, c'est la convivialité, c'est le travail en commun. Et là, avec cette pandémie, on était dévitalisés quelque part et pourtant, on en a fait une force.
Même avec les visios, Nicolas, ce lien de proximité, il est indispensable.
Ah, complètement. Ouais. Il faut continuer à pouvoir échanger avec tous nos adhérents régulièrement sur tous les sujets. Ouais.
C'est indispensable, vital pour tout le monde. En tout cas, on va revenir sur cette table au vent. On va rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose à toutes et tous. Peut-être faire un point sur ce qu'est l'aluminium du bâtiment, d'où ça vient, comment c'est fait, l'usage, pour poser un petit peu les bases de cette table ronde. Je ne sais pas qui veut prendre la parole, peut-être en premier sur ce sujet, peut-être avec vous directement.
Bien sûr,
bon, Sandra.
On va pas faire un cours sur l'aluminium en lui-même. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement la filière aujourd'hui telle que la représente le SNFA. Pour revenir rapidement aux fondamentaux, on va dire que nous, on travaille sur une matière première qui s'appelle la bauxite, hein, qui est ensuite donc extraite. C'est une matière qui est présente sur la croûte terrestre à hauteur de 8% finalement de la croûte terrestre. Donc c'est quelque chose qui est disponible de façon... on va dire, assez courante sur la croûte terrestre. Donc une fois qu'on a extrait cette bauxite, on est amené donc effectivement à transformer la bauxite et à produire de l'aluminium avec une recette particulière adaptée aux besoins des produits du bâtiment. Et donc effectivement, on arrive à avec cette matière première qu'est l'aluminium, à fabriquer, donc comme on vient de le dire, hein, des fenêtres, des portes, des façades, des vérandas, des garde-corps et des cloisons métalliques. Finalement, quel est l'avantage de travailler ce matériau ? Eh bien, ils sont multiples, hein, les avantages, parce que c'est un matériau qui, une fois qu'il est extrait, peut être recyclé à l'infini. Alors quand on dit recyclé à l'infini, c'est qu'il peut être récupéré, puisqu'il a une qualité particulière dans sa composition, qui nous permet finalement de le refondre et de reproduire les billettes qui nous permettent ensuite de fabriquer les profilés. Donc ça, c'est un avantage à double titre. Hein. D'abord parce qu'effectivement, on a ce qu'on appelle, nous, des impacts sur l'exploitation des ressources naturelles qui est limitée dans le temps, puisque une fois qu'on a extrait, après, on se recycle à l'infini. Et d'autre part, pour refondre cet aluminium, on a besoin que de 5% de l'énergie initiale. Voilà, donc c'est un cercle vertueux et c'est intéressant dans les temps que nous traversons et vers les, on va dire, les tendances environnementales qui se dessinent aujourd'hui. Autre chose, donc, c'est que évidemment on a des produits qui ont une durée de vie qui est très très intéressante, hein, avec une durée de vie qui va au-delà de 50 ans, avec de l'entretien qui est presque, on va dire, quasiment nul. Hein, juste un chiffon avec un peu d'eau suffit à l'entretien. Donc on arrive à faire des réalisations qui sont durables dans le temps et qui sont, on va dire, très valorisantes pour les bâtiments, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que le patrimoine a besoin d'être valorisé, tant au niveau donc énergétique, mais maintenant aussi environnemental.
Comment ça se matérialise concrètement aussi, donc ce savoir-faire 100% français, ce cercle vertueux?
Alors effectivement, on est sur en plus une filière qui est française. Les sites de production sont en France. Hein. Les produits sont fabriqués en France pour être installés en France. Hein. Donc ça c'est un élément important. On est dans une filière en plus qui, au niveau du nombre d'entreprises, est assez importante. On a beaucoup de... C'est un produit qui est donc travaillé en atelier, ou plus ou moins grande taille d'atelier. Mais ce sont des ateliers qui sont proches des marchés. Les ateliers sont répartis sur l'ensemble du territoire, que ce soit pour la fenêtre, pour la véranda, etc. On est proche de nos clients. On fait du sur-mesure.
Local et territorial.
Absolument. Hein, donc on fait du sur-mesure. On est vraiment dans l'approche du besoin au niveau de l'habitat, au niveau du bâtiment de bureau, du bâtiment tertiaire, etc. On a vraiment une approche particulière sur ce marché de la menuiserie.
Et concernant les menuiseries en fin de vie, vous avez parlé de cercles vertueux. Comment sont-elles traitées ? Comment elles sont retirées, finalement, des bâtiments ? Bruno ?
Alors, ça, c'est un sujet important. Pour l'instant, on va dire plus ou moins bien. Mais justement, l'actualité est brûlante, c'est qu'on va s'assurer qu'elles soient beaucoup mieux récupérées. Alors, pour être clair, on a l'État qui nous pousse à le faire. Alors, il va falloir un peu de temps pour vous expliquer tout ça, parce que ça part d'une loi, qui va créer une filière REP, je vais expliquer tout ça, qui elle-même va susciter la naissance d'un éco-organisme. Il va falloir que je vous explique tout ça aussi. Voilà, donc il me faut un petit peu de temps pour vous expliquer tout ça. En fait, le début du début, c'est la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est une loi de 2020. Et cette loi, elle vise à développer l'économie circulaire en tendant vers toujours plus de recyclage. Et elle va créer des filières REP. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une filière REP ? REP, ça veut dire responsabilité élargie du producteur. C'est un peu le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire que celui qui fabrique, ou qui distribue, ou qui importe un produit, il doit s'occuper de la fin de vie. Il doit prendre en charge la fin de vie. Et pour ça, il va payer une éco-contribution. Il va payer une somme qui va permettre de financer, d'organiser, de mettre en place des solutions de collecte, de réutilisation, de recyclage pour les produits pour lesquels il est concerné. Alors, cette filière REP, ça existe déjà en France. Personne ne sait que ça s'appelle une filière REP, mais on connaît tous ce qu'on paye pour les piles ou pour les équipements électriques, électroniques ou pour l'ameublement. Il en existe aussi pour les bateaux. En fait, il en existe à ce jour 14 filières REP en France. Et cette loi AGEC, elle va en ajouter 11. 11 nouvelles. Ce qui nous concerne, c'est que dans ces 11 nouvelles, il y a celle des PMCB, les produits et matériaux de construction du bâtiment. Et là, c'est du lourd, du très très lourd. Puisque cette filière REP dont on parle pour le bâtiment, le gisement de déchets en milliers de tonnes, puisque c'est comme ça qu'on parle dans une filière REP, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qui existe aujourd'hui. Puisqu'on parle de 46 000 tonnes et 46 000 millions, milliers de tonnes, 46 000 milliers de tonnes, donc 46 millions de tonnes. Et ça, c'est trois fois plus que toutes les autres filières REP réunies. Donc il y a un enjeu absolument colossal pour le bâtiment qui est d'organiser le recyclage des produits de déconstruction de tous les bâtiments qui sont déconstruits en France aujourd'hui. C'est un enjeu absolument colossal et on sait bien qu'aujourd'hui c'est plus ou moins bien fait et on sait bien que parfois ça aboutit dans des décharges sauvages, ce qui est évidemment abominable et ce qu'il faut éviter, c'est bien l'objectif du bâtiment. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair, en tout cas pour 2022, nous devons constituer un éco-organisme de façon à ce que l'ensemble des entreprises payent cette éco-contribution et rentrent dans, travail à organiser la récupération des matériaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un éco-organisme ? J'ai parlé de la loi AGEC, de la filière REP, maintenant il faut que je parle de l'éco-organisme. Qu'est-ce que c'est que l'éco-organisme ? Ben, c'est juste, c'est l'entreprise qui va collecter cette éco-contribution et qui va organiser ce recyclage, ce tri, cette récupération des matériaux, ce tri et ce recyclage. Voilà. Alors, pour ça, le gouvernement, il a fait un cahier des charges et il y a un certain nombre de personnes, d'organismes qui se sont créés, qui se sont organisés pour répondre à ce cahier des charges. Et il se trouve qu'il y a un organisme qui a été créé à l'initiative d'un certain nombre d'industriels importants de nos métiers qui s'appelle Valobat et qui répond à ce cahier des charges, qui travaille d'arrache-pied pour répondre à ce cahier des charges et donc être agréé en début d'année prochaine ou à la fin de cette année pour collecter les matériaux de tous les types de matériaux de construction. Donc nous, le SNFA, là encore avec notre collègues de la menuiserie, l'UFME, nous avons choisi d'être actionnaire de cet éco-organisme. Ça, c'est très original. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je vous ai dit que cet éco-organisme, il a été créé par des industriels, des grands noms. Je ne vais pas tous les citer, mais des grands noms qui sont très connus de nos métiers du bâtiment, avec plein de produits, puisque tous les produits du bâtiment sont concernés. Donc, il y a 26 actionnaires. Mais dans la menuiserie, il y a eu, là encore, comme je vous ai dit tout à l'heure sur notre réaction au Covid et la façon dont on s'est organisé ensemble pour le redémarrage après le Covid, bah, ça a été un peu pareil. C'est-à-dire que tout le monde a dit « Non, non, mais nous, on ne va pas y aller un tel ou un tel ou un tel. On y va ensemble. » Et on est le seul secteur où ça s'est passé comme ça. Donc, si on y va ensemble, les actionnaires, ce sont les syndicats. Donc les deux syndicats, l'UFME et le SNFA, sont les deux actionnaires de notre secteur de la menuiserie qui vont emmener avec eux toutes les entreprises pour s'occuper du recyclage des produits en fin de vie, de déconstruction, payer l'éco-contribution qui va permettre de le faire. Voilà, donc ça, c'est très original et on est en plein dans le sujet. C'est une actualité brûlante. Valobat, donc, il y a un président qui s'appelle Hervé Demestre, qui a déjà une équipe de permanents qui est en train de se créer, travaille, mais jour et nuit, week-end compris, c'est un travail de folie pour être capable de répondre à ce cahier des charges et d'être agréé et de pouvoir entrer en vigueur en 2022. Et nous sommes totalement impliqués dans toutes ces réunions, que ce soit des réunions techniques, des réunions sur les barèmes qui vont venir, des réunions, il y a beaucoup de travail d'organisation et on est à fond, c'est vraiment notre actualité la plus brûlante aujourd'hui.
La plus brûlante possible. L'émission, du coup, en quelques mots, vous en avez déjà commencé à parler, de Valobat, concrètement, ça passe par quoi ?
Eh bien, alors, Valobat, ça va être à la fois de récupérer les contributions de toutes les personnes et les organismes et les entreprises de notre secteur. Donc, j'en profite pour dire à tout le monde, contribuez, choisissez Valobat pour payer votre éco-contribution dans le secteur de la menuiserie, hein, puisqu'on est tous unis. C'est comme ça qu'on s'occupera que notre argent soit le plus utile possible. Hein. Les syndicats sont à la manœuvre, l'équipe des permanents, on vous l'a présenté tout à l'heure, les bureaux, les élus, tous, on est tous là. Pour faire en sorte que cet argent qu'on va donner, nous, dans nos entreprises, hein, tous ceux qui sont concernés par le paiement de cette éco-contribution, c'est-à-dire ceux qui produisent, ceux qui fabriquent le produit, on va s'occuper de faire en sorte que ce soit le plus utile possible à travers Valobat, c'est-à-dire d'organiser le recyclage avec une multitude de points de collecte, d'organiser le tri, hein, la séparation des matériaux et d'organiser leur valorisation derrière. Alors après, dans la mission de Valobat, il y a aussi le fait de communiquer là-dessus et de promouvoir l'éco-conception. Puisque plus les produits sont conçus en amont, en intégrant la revalorisation qui sera faite après, mieux c'est. Voilà. Et plus les produits sont recyclables aussi, évidemment, mieux c'est.
Mieux c'est là encore.
Sinon, s'ils ne sont pas recyclables, c'est là où il y a
ça
un gros souci.
Ça se complique un peu.
Voilà.
En tout cas, c'est une vraie mission collective. Ensemble, là encore,
je l'ai déjà dit, je le répète, hein, notre profession a cette grande particularité de jouer collectif. C'est formidable. Tout matériau confondu, on est absolument pas concurrent. On est ensemble pour organiser le destin de notre profession, parce que c'est l'enjeu absolu. C'est l'enjeu absolu qui est de travailler des matériaux recyclés avec des poids carbone le plus faible possible et de s'occuper de la fin de vie de ces produits une fois qu'ils seront que le bâtiment a atteint la fin de sa vie.
Pour trouver ce cercle vertueux. Merci beaucoup, Bruno, pour ces explications autour de Valobat. Donc, nous avons parlé matériaux, nous avons parlé produits aluminium. Mais qu'en est-il, finalement, de leur intégration, après, de ces produits dans les bâtiments ? Sandra ?
Oui, effectivement. Donc, il y a toute cette dimension qui est, on va dire, on est passé de réglementations qui ont pris en compte les besoins de la thermique, hein. Maintenant, on évolue vers la dimension environnementale. Hein. Donc, les réglementations, et notamment la réglementation qui régit l'acte de construire des bâtiments neufs. Hein. Donc là, on est passé de la RT, donc la réglementation thermique, à la RE, la réglementation environnementale. La réglementation environnementale 2020 est donc, pour nous, le SNFA, apporter une réponse, finalement, aux attentes qui nous sont maintenant fixées par les dirigeants du pays avec cette préoccupation de savoir qu'on construit aujourd'hui pour nos générations futures, hein. C'est un petit peu le même état d'esprit que pour l'éco-organisme. On paye aujourd'hui pour les produits qui ont été installés par nos prédécesseurs, mais on construit aujourd'hui pour nos générations futures. Donc effectivement, on a été à la manœuvre là aussi, hein, avec beaucoup de propositions pour que la filière aluminium puisse continuer à être, on va dire, leader sur l'enjeu qui est proposé par l'ARE. Donc les enjeux, c'est adapter finalement les usages, hein, les produits, etc., aux usages du bâtiment. On voit que les modes d'occupation, les scénarios d'occupation de nos locaux, qu'ils soient d'habitation ou de bureaux, changent. Le Covid nous a fortement contraints. Donc il faut prendre tout ça en compte. On a travaillé depuis plus de 2 ans à la rédaction des textes, donc dans un premier volet sur l'habitation et dans un deuxième volet sur les bâtiments tertiaires. Et avec la filière aluminium, en plus, on a, nous, une capacité à intégrer de l'intelligence artificielle dans nos produits. Ça, on va dire, à la fois la dimension de nos produits et puis la particularité d'avoir ces profils qui sont fait sur mesure, nous permet de pouvoir intégrer, par exemple, de la domotique. Donc ça, c'est très important, parce que dans l'usage des bâtiments, on voit bien que l'intelligence artificielle va aider l'utilisateur de nos produits à gérer, on va dire, son logement ou son bureau. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a un aspect innovation dans la filière qui est très, très important. Ensuite, effectivement, il y a l'indicateur carbone qui rentre en ligne de compte maintenant. Donc, c'est un élément également très, très important. Cette réglementation environnementale, elle embarque l'énergie et le carbone. En ce qui concerne la filière aluminium du bâtiment, on a bien mis en œuvre le fait qu'on était récupéré et recyclé après la vie en œuvre des produits. Donc ça, c'est un élément important. Et on a bien l'intention, encore une fois, d'appuyer sur le champignon et d'aller plus loin. On a également travailler sur tout ce qui va être les combinatoires produits, hein, puisqu'on n'est pas tout seul. On assure la fermeture des ouvertures, mais il faut aussi prendre en compte le confort d'été, qui est une grande nouveauté de la RE 2020. Et donc, en cela, on s'associe avec nos partenaires, donc à la fois du vitrage et de la protection solaire. Donc il y a un gros travail qui a été fait et donc là on salue l'ensemble des partenaires qui nous ont soutenus dans cette démarche-là, puisqu'on fait partie du pôle fenêtre FFB. Donc là-dessus on a une réflexion aussi, on va dire, on doit être intelligent ensemble, hein, et on s'est intégré toutes ces solutions-là. On a évidemment aussi, on va dire, un avantage par rapport à tous les apports. Tous les apports gratuits de chaleur. Donc ça, c'est par rapport effectivement aux consommations du bâtiment, hein. On permet de faire des grandes ouvertures avec beaucoup d'apports de chaleur et d'apports de lumière naturelle. Donc ça c'est un point fort pour l'aluminium. Et puis ensuite, donc effectivement, on est sur la partie à la fois logement et à la fois bureau, sur des problématiques qui sont un petit peu différentes. Mais encore une fois, on est le SNFA, force de proposition dans les deux secteurs, on va dire, du bâtiment. Sachant qu'on est au SNFA excessivement fort sur la partie fenêtre, mais aussi sur la partie façade, qui est un petit peu notre ADN, hein, c'est notre force vitale avec des entreprises qui fabriquent et qui installent. Donc on a là aussi un devoir de conseil par rapport au maître d'ouvrage, à la conception des bâtiments d'habitation, mais aussi à la conception des bâtiments de bureaux.
Du conseil, de l'information, de l'accompagnement aussi pour délivrer savoir. L'information. Du savoir-faire, savoir. 100% français, vous l'avez dit en
Absolument.
Plus.
Absolument. Avec beaucoup de know-how dans nos entreprises qui disposent de bureaux d'études et qui sont en capacité de répondre au sur-mesure, pas seulement dans la fabrication, mais aussi dans le conseil.
Et puis on a commencé à l'évoquer un petit peu tout à l'heure, ce qui je trouve aussi indispensable, c'est ce maillage finalement, cet ancrage, alors qu'il soit local ou à l'échelle du département, de la région, mais je trouve en tout cas en vous écoutant qu'il y a cette nécessité, ce besoin vital de mailler en fait tout le territoire français.
En fait, là, vous avez raison, il y a un enjeu important pour le SNFA par rapport à cette richesse, on va dire, qu'on a par rapport à notre maillage aussi, c'est l'information. Il faut que l'on informe beaucoup, hein, les professionnels et en retour, il faut qu'il y ait une lisibilité et une clarté de l'offre. Et donc, effectivement, ça passe aussi par le sujet de certains labels de qualité, certaines marques de qualité et certaines promesses faites au marché de la part de nos entreprises. Et là aussi, donc, on a formulé des offres qui permettent d'avoir, on va dire, ce lien qui est fort entre la réponse à la réglementation avec des entreprises qui sont, on va dire, qui respectent un certain cahier des charges au niveau de la qualité. Je vais laisser...
Justement, oui, Nicolas, les entreprises, c'est la belle transition, tout trouvé. Comment arrive à se démarquer ces entreprises dans un contexte, on vient de le dire, évolutif?
Surtout par les démarches qualité. Donc je vais vous parler d'une démarche qualité qui s'appelle le label Fenêtre Alu. C'est un label qualité qui a été créé en 2015, qui s'est déployé à partir de 2016. Aujourd'hui, il y a 40 entreprises titulaires de ce label. C'est un label qualité pour les entreprises, les fenêtres aluminium fabriquées en France, qui couvre à la fois les fenêtres, les portes-fenêtres, avec ou sans système de fermeture. Et ce label est assis sur un référentiel qualitatif, donc qualitatif d'une part au niveau conception, parce qu'il exige à ce que les systèmes de fenêtres soient titulaires d'un DTA, donc un document technique d'application qui est délivré par un groupe d'experts géré par le CSTB, Donc une conception validée, une exigence sur des choix de composants sous démarche qualité. On va exiger à ce que les vitrages soient sécales, on va exiger à ce que les profilés à rupture de pont thermique soient sous la certification NF profilé, on va exiger un calimarine pour la qualité du thermolaquage. Et enfin, ce référentiel exige aussi la mise en place d'un contrôle de production en usine pour tout ce qui va être constance de la qualité de fabrication, avec un nombre d'essais à réaliser en fonction de la quantité de fabrication annuelle des fenêtres. Donc ça, c'est le référentiel. Ensuite, ce label fenêtre alu est délivré aux entreprises après un audit réalisé par Socotec, qui va donc vérifier la conformité à ce référentiel. Socotec qui va agir en tant qu'auditeur tierce partie indépendante.
Si un message peut-être à faire passer, c'est quoi ? C'est abonnez-vous à ce label ? Engagez-vous
non,
dans ce label.
Voilà, ce label met vraiment en avant la qualité des
menuiseries. Le gage d'expertise, de savoir-faire.
Avec une bonne conception, une bonne fabrication, avec des composants de qualité. Tout est là pour avoir des menuiseries aluminium de qualité.
Bruno Léger, votre réaction à tout ce qui vient d'être dit. Et puis, on va rebondir. Après, on va poursuivre notre échange sur la table ronde.
Elle voulait que je vous parle.
Sur le côté, par exemple, je ne sais pas, là, on a parlé du mariage territorial, sur le local, sur les compétences, sur le savoir-faire. Au niveau du recrutement, par exemple, Sandra, sur le recrutement.
Je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière sur ce qu'on vient d'évoquer, parce que ces démarches-là, elles sont pas nouvelles, pas récentes, d'accord ? Ça date déjà. On a beaucoup travaillé depuis de longues années au SNFA pour asseoir toutes ces démarches-là. On intègre les démarches environnementales, évidemment, au sein des démarches qualité. Hein, ça fait partie maintenant des incontournables. On a une compétence particulière au SNFA, c'est qu'on a la capacité à fournir en plus la donnée environnementale pour que le calcul, on va dire, de l'analyse du cycle de vie à l'échelle du bâtiment prenne en compte nos données. Donc on fournit des fiches de données environnementales et sanitaires qui intègrent tout ce qu'on a évoqué précédemment. Et ces références-là, elles font partie aussi de notre label fenêtre alu. Et c'est très important parce que finalement, ça fait partie de la promesse qu'on doit faire au maître d'ouvrage. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire évoluer la profession. Hein, ça fait partie de, on va dire, la montée en compétence de nos entreprises qu'on doit à nos adhérents. Les chefs d'entreprise qui prennent la décision d'adhérer au SNFA, ils viennent aussi pour comprendre tous ces enjeux et pour pouvoir avoir, on va dire, tout de suite une action, la bonne action, on va dire, la bonne réponse.
Le bon réflexe, la bonne réponse à apporter.
Voilà, absolument. Et dans ce domaine-là, notre mission aussi, c'est de les amener à avoir les compétences en interne qui correspondent à cette évolution du marché. C'est un enjeu primordial. Et en ce sens, aujourd'hui, bon, la crise du recrutement, je crois qu'elle touche largement le monde du bâtiment, d'accord ? Mais notre filière est particulièrement concernée parce que, effectivement, on a énormément d'évolutions de nos métiers qui sont très intéressantes pour les jeunes ou pour les gens qui cherchent une reconversion, parce qu'on a vu que là, sur les 18 derniers mois, il y a beaucoup d'industries type aéronautique, automobile. Bah, qui
ont pâti un peu
de toute cette période. Donc il y a des gens qui peuvent nous rejoindre et qui peuvent effectivement trouver dans nos entreprises, dans notre filière, des métiers qui sont en pleine évolution. Il faut écrire les descriptifs de poste, j'ai envie de dire, parce que tout ce qu'on a imaginé correspondre au métier du menuisier, eh ben, aujourd'hui ça a vraiment pris une autre allure.
D'où l'importance des formations et de la montée en compétences.
D'où l'importance, effectivement, de toutes ces formations. Alors nous, nous sommes, en tant qu'organisation professionnelle, évidemment, à l'écriture, à la rédaction des programmes, hein, des contenus. Nous sommes nous-mêmes intervenants. On a là un expert technique qui est très demandé dans les cursus de formation, que ce soit donc en formation initiale, hein, donc on va évidemment du CAP à la licence professionnelle, donc c'est vraiment un éventail très très intéressant, un parcours qui est complet, et j'insiste sur le fait qu'à l'issue, il y a de l'embauche, parce qu'en plus, la licence, elle est en alternance,
elle est professionnalisante.
Elle est professionnalisante. On va travailler le titre professionnel pour pouvoir être en mesure, effectivement, donc qu'il soit vraiment attractif et que nos gens qui sont en reconversion vont pouvoir, on va dire, accéder à quelque chose qui soit valorisé. Et puis, il y a toute la partie, formation continue sur laquelle il faut qu'on travaille.
Donc, retrouver aussi l'attractivité, donc, parce que c'est un métier qui évolue, c'est un métier qui va plaire, qui va séduire, on le sait. Et en face, il y a des formations qui existent.
Et on a du travail. On a du travail, on a des postes dans tous les domaines des entreprises. Il n'y a pas de petits métiers. Et j'insiste aussi sur le fait que je croise tous les jours des gens qui sont dirigeants d'entreprise et qui ont eu un parcours professionnel, une évolution. C'est formidable. Franchement, c'est des gens qui ne changeraient pour rien au monde. Donc il y a beaucoup de gens qui rentrent, il n'y a personne qui sort de nos filières.
C'est un bon point.
Et par contre, on embauche. Voilà. On est une filière du bâtiment qui embauche et on n'a pas l'image de la pénibilité dans le monde de la menuiserie aluminium. On a la fierté de réaliser des beaux ouvrages. Les gens qui sont à la manœuvre dans les entreprises, quand ils passent dans la rue, ils voient les ouvrages, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. C'est des ouvrages qui dureront 50, 100 ans, qui sont tout autour de nous et qui sont emblématiques et qui sont dans les grandes revues d'architecture, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment... On fait partie d'une aventure humaine. Quand on rentre dans la filière ALU, on peut écrire l'histoire pour pouvoir, dire, tu vois, ça c'est moi qui l'ai fait.
Écoutez, c'est un très joli message. Je vous encourage donc toutes celles et ceux qui nous écoutent de les rejoindre, de postuler, de vous informer, de vous renseigner. Ça, vous ne le regretterez pas, c'est une certitude. Bruno Léger, les prochains objectifs du SNFA, quand on a écouté un petit peu tout ça, la vision, les projets à venir.
Alors, je vais revenir sur la qualité, justement, et sur les réglementations. C'est sûr que nous, syndicats, on a deux rôles. Le premier, c'est de travailler avec les pouvoirs publics de façon à les informer et que les réglementations soient pertinentes. Les pouvoirs publics sont là pour fixer le cap et ils nous emmènent. Et dans nos métiers, c'est vrai que nos professions ont beaucoup évolué grâce aux nouvelles réglementations. La dernière, la 2012, avait été à cet égard, elle avait vraiment entraîné un progrès pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de bâtiments. Donc nous, on travaille en amont. Et la deuxième chose, c'est d'emmener nos adhérents pour répondre à ces nouvelles réglementations. Et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on travaille avec les démarches qualité, mais toujours de façon collective. On parlait des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, les FDES, qui sont la base de la nouvelle RE 2020. Parce que dans la RE 2020, il y a ce volet carbone, on l'a dit, je le redis, et ce volet carbone, il calcule le poids carbone du bâtiment, sa construction et sa durée de vie. Et la base de ce calcul, c'est la FDES. C'est compliqué pour une entreprise de calculer la FDES de ses produits. Donc, on fait des FDES collectives. De façon à ce que nos adhérents, ce soit plus facile pour eux d'utiliser la FDES et de répondre à la nouvelle réglementation. Donc voilà, ça c'est le cœur du travail d'un syndicat. Hein, c'est de travailler avec les pouvoirs publics pour que les nouvelles réglementations soient pertinentes et d'emmener les adhérents pour répondre à cette réglementation. Et c'est d'actualité avec la RE 2020, c'est-à-dire 1er janvier prochain. Alors l'autre très gros enjeu pour nous, c'est évidemment la démarche environnementale. J'ai beaucoup parlé de la loi AGEC, de la filière REP, de l'éco-organisme, de Valobat, de notre rôle dans Valobat. C'est clair qu'au-delà de ça, notre enjeu, c'est la décarbonation de nos produits, de nos matériaux, de baisser le poids carbone des ouvrages. Le gouvernement nous y incite, mais c'est notre rôle, évidemment, pour améliorer le bâtiment de demain. Donc ça, c'est clair que je ne vais pas revenir sur tout le travail qu'on fait au sein de Valobat, mais il nous faut, nous, profession de l'aluminium, SNFA, baisser le poids carbone. Alors on a l'immense avantage d'avoir un matériau qui est 100% recyclable. Ça, c'est notre grande caractéristique et notre grand avantage. Mais au-delà de ça, il faut qu'on baisse le poids carbone du produit avec lequel on fait nos façades, nos vérandas, nos garde-corps, nos cloisons, etc. Soit parce que l'alu primaire est, lui, issu d'un processus qui est moins carboné que d'autres. Donc il faut arriver à trouver le processus moins carboné, ça existe. Soit parce qu'on incorpore dans cet aluminium de plus en plus de recyclage. Et on en revient au sujet précédent, d'où vient cet alu de fin de vie? De la déconstruction. de la déconstruction des ouvrages en aluminium, des façades, des fenêtres qui arrivent à la fin de leur vie. C'est pour ça que je le redis, et là ça me permet de le dire de façon encore plus claire, les normes en jeu pour nous à travers Valobat, c'est pas seulement d'être sûr que nos produits sont récupérés, déconstruits, valorisés. Il y a une étape suivante, on veut que ça nous revienne à nous, chez nous, dans nos produits. Ça, c'est le point fondamental. Et là, on sera vraiment dans l'économie circulaire, qui est le fondement de la loi AGEC. C'est de s'assurer que les produits qui ont été posés il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans d'aluminium, qui sont déconstruits, ils vont faire des billettes nouvelles, qui ont toutes leurs vertus, puisque l'aluminium est indéfiniment recyclable, d'accord, et que ces billettes, elles reviennent dans nos produits, les fenêtres, les vérandas, les façades, les garde-corps et les cloisons. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le but. Ça, c'est l'enjeu suprême. Hein,
Si on doit résumer un petit peu tout et réappuyer sur certains points forts, en tout cas de cette table ronde, ça, c'est l'enjeu suprême.
Voilà, après, il y a, mais Sandra l'a parfaitement expliqué, il y a l'enjeu de la formation, d'attirer les jeunes. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais forcément, si on doit retenir trois, en tout cas, c'est les réglementations, comment on travaille et comment on emmène nos adhérents. C'est cet enjeu environnemental, baisser le poids carbone de nos ouvrages, récupération des matériaux, plus de recyclage, plus de produits recyclés dans nos produits. Et le troisième, c'est bien sûr la formation, attirer les jeunes dans nos métiers qui sont formidables, qui sont très technologiques. Je le redis aussi, nos produits sont d'une modernité. Ils sont non seulement beaux, comme l'a très bien expliqué Sandra, la fierté qu'on a quand on est dans une ville et qu'on voit de très beaux ouvrages réalisés en aluminium et en verre, mais nos produits sont très technologiques. Pas seulement pour être performants, ils sont performants thermiquement, ils sont performants sur le plan acoustique, mais aussi ils sont de plus en plus technologiques, ils sont de plus en plus connectés, ils sont de plus en plus motorisés. Donc tout ça, ça fait aujourd'hui avec votre smartphone, vous ouvrez à distance une porte en aluminium, vous pouvez ventiler votre maison à distance, tout ça c'est connecté à un capteur qui peut faire que tous vos produits interagissent pour aérer la maison, rafraîchir la maison la nuit.
Faire un petit courant d'air entre la fenêtre, voilà, le salon, voilà. La chambre.
Donc tous ces produits sont ultra modernes. On est vraiment, il suffit de se balader, ça fait la conclusion peut-être, avec Équipe Bay, partout vous avez de l'innovation, des produits connectés et de la modernité. On est vraiment l'exemple d'une filière moderne et qui contribue à la modernité du bâtiment, en général.
Quoi dire de plus ? C'est parfaitement résumé. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir été sur notre plateau, sur cette table ronde avec l'aluminium. Votre avenir se profile bien. Merci beaucoup, Bruno Léger. Merci beaucoup, Sandra Pertin. Merci beaucoup, Nicolas Lopin, d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver évidemment ce podcast dès qu'il sera disponible sur le site Bâti Radio. Nous, on continue les interviews jusqu'à ce soir, suite de ce salon Équipe B Metal Expo. Merci à tous de nous suivre sur Bâti Radio. À très vite.
Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle fenêtre.